9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
André Bedjebar, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes historien, vous publiez au Cherche Midi une histoire secrète de la bombe atomique française. Alors un livre absolument passionnant, plein de suspense et de rebondissements, où l'on découvre notamment qu'au tout début de la Seconde Guerre mondiale, la France était en pointe dans la course à la bombe. Frédéric Joliot-Curie avait découvert la réaction nucléaire en chaîne et réussi à acquérir la totalité du stock mondial d'eau lourde, 185 kilos, qui tenait dans 26 bidons. Il avait même déposé des brevets.
Ah oui, ça c'est une chose qui est méconnue et pour des raisons diverses. Mais il faut crier urbi et orbi que le premier, brevet enregistré, déposé pour une arme explosive, c'est bien les Français qui l'ont fait à Paris.
Ouais, et au moment de l'armistice, Joliot-Curie a réussi à expédier les 26 bidons in extremis en Angleterre pour que les Allemands ne mettent pas la main dessus. Et on les a récupérés après la guerre.
Alors ça, c'est une dissimulation tout à fait sympathique de Joliot-Curie, qui est une figure un peu contrastée, dont l'intelligence est incomparable. Le prix Nobel, il l'aurait mérité deux fois.
Il l'a eu en 1935 avec sa femme, Irène Joliot-Curie.
Voilà, ce sont grâce à ça qu'ils sont acheté une maison dans laquelle j'étais travaillé avec les archives de Joliot-Curie. Et il a été un vrai patriote. Et alors, il a été également, il a balancé dans l'hésitation comme beaucoup de Français au début. Il y a un article de lui où il hésite en quelque sorte sur la voie à suivre. Mais on peut dire qu'il a réussi deux choses. Il a réussi à dissimuler les terres rares, c'est-à-dire des éléments nécessaires à la fission.
Et il les a terres rares qui aujourd'hui nous sont redevenues précieuses, puisque ça nous est utile pour nos téléphones portables, comme pour nos avions de combat.
On n'imagine pas à quel point c'est une chose de géopolitique qui est perdue. Ceux qui étaient en quelque sorte les grands détenteurs de terres rares avant la guerre, en 1939, ce sont les Belges. Et nous avons d'excellentes relations avec les Belges. Et ce sont également les Canadiens. Et désormais, cet enjeu est devenu d'une autre nature, mais je tiens à dire que Joliot-Curie a été, après une hésitation, comme beaucoup de Français, un bon patriote et qu'il a sauvé en quelque sorte les bijoux de famille.
Alors évidemment, ce ne sont pas les Français qui vont faire la première bombe atomique. La défaite aura raison de nous dans ce domaine. Mais à la Libération, le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique. Joliot-Curie est à sa tête et il met au point la pile atomique Zoé, notre premier réacteur militaire. De Gaulle a quitté le pouvoir, mais pendant toute sa traversée du désert, qui dure 12 ans, il garde toujours un œil sur la bombe. Bombe qui n'existe pas encore, mais que nous sommes en train de vouloir mettre au point.
On ne dira jamais assez que l'expression traversée du désert, que les politistes aiment bien employer, est en contresens dans un certain domaine. Il n'y a jamais eu de traversée du désert, parce que De Gaulle a placé d'abord tous les hommes clés. Tous les hommes clés qui étaient autour de lui sont aux affaires dans des cabinets secrets. Et celui qui va être, à partir de 54, quelqu'un d'extrêmement important, comme Guillaume, qui est un ancien des services secrets de Londres, dont le frère d'ailleurs est celui qui va opérer de Gaulle de la cataracte. Nous avons, y compris dans l'équipe autour de Pierre Mendès France, la totalité des hommes qui comptent dans la résistance. Et donc, on ne peut pas expliquer en quelque sorte cette réussite française sans voir la force politique des hommes qui sont derrière, cette espèce d'élite, un peu de l'ombre, mais qui est réelle et constante dans toute cette période.
Il y en a aussi dans les gouvernements. Jacques Chaban-Delmas, par exemple, joue son rôle également en tant que ministre.
Alors, non seulement Jacques Chaban-Delmas, mais il faut bien voir que les gaullistes, après les élections de 47, ont eu une existence pas forte, mais réelle. Donc c'était une espèce de parti charnière et ils ont toujours existé avec Chaban-Delmas et d'autres. Et je répète également, parce que je l'ai dit dans maintes fois, mais surtout je l'ai écrit dans ma thèse pour l'authentifier, celui qui a en quelque sorte sauvé aussi la bombe atomique, c'est Pierre Mendès France. Et quand il fait échouer ce qu'on a appelé le crime, qui est un crime sans aucun sens, sans aucun cadavre, le crime du 30 août 1954, où on enterre la communauté européenne de défense, tout le monde, en quelque sorte, crie et continue à crier sur Pierre Mendès France. Mais en vérité, Pierre Mendès France a fait ça pour une raison simple, que je tiens absolument à répéter et que tout le monde en soit conscient. Si la France avait accepté de signer et de ratifier le traité de la communauté européenne de défense, cela signifiait qu'on aurait une armée, qu'on aurait été intégré dans un espace européen, mais qu'on n'aurait pas eu la bombe atomique.
Bien entendu, c'est ça l'enjeu, effectivement. Vous avez prononcé le nom de Guillaume. C'est lui le père de la bombe, hein, de la bombe française. C'est Pierre Guillaume. Alors, il faut en dire un mot.
Alors, Pierre Guillaume est un homme évidemment supérieur. Ce sont des polytechniciens qui se réunissaient, je le sais, parce que j'ai fait tellement d'interviews de gens qui désormais sont disparus. Tous les jours, il y avait une réunion secrète au CEA. C'était le samedi où peu d'entre eux y étaient, mais Guillaume en était le fer de lance. Et pour l'anecdote, mais je tiens à la dire, puisque je suis dans un lieu de communication de grand public, ceux qui ont fait la Twingo, c'est la même équipe.
Ah oui.
Donc c'est la même équipe, c'est-à-dire ils ont décidé de faire en quelque sorte une imagination dans un domaine, je dirais populaire, de tous, ce qu'ils avaient fait pour la bombe. Et donc la bombe ne pouvait pas exister puisqu'elle était en quelque sorte maudite depuis Hiroshima et Nagasaki. Donc il faut à la fois des gens qui sont, je dirais, pacifiques, mais non pas pacifistes. Il y a une grande différence que je fais entre les deux attitudes. Ce sont des gens qui ont eu l'humiliation, la douleur de la guerre de 40. Et je pense que toute leur énergie, toute leur force, toute leur intelligence, toute leur dissimulation, c'est de dire, il ne faut pas que ça leur recommence. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la bombe.
Mais je vous arrête quand même sur cette anecdote. Oui. La Twingo, ça me paraît bien plus longtemps après.
Oui, mais c'est la même équipe.
Mais ce sont les mêmes gens
c'est les mêmes équipes. Ce sont des gens qui sont en général dans les 10 premiers de Polytechnique. Ce sont donc les gens d'école.
Ce ne sont pas les mêmes, mais qui fonctionnent de la même manière.
Qui fonctionnent de la même manière et qui a une espèce d'héritage de mise en ordre de projets industriels qui demandent le secret et qui demandent la volonté politique.
On fait une pause, André Benjebar, on se retrouve tout de suite après. Il va arriver encore beaucoup de choses avant qu'on ait la bombe.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec André Benjebar qui nous raconte l'histoire secrète de la bombe atomique française. Le livre vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Alors on s'aperçoit quand on lit ce livre, André Benjebar, que tous les présidents du Conseil qui succèdent sous la 4e République en fait concourent à la mise au point de la bombe, mais aucun ne veut s'engager nommément, précisément. Pierre Guillaume, dont on l'a dit, c'est lui le père de la bombe, c'est lui qui est à la tête du commissariat à l'énergie atomique, c'est lui l'homme de Gaulle, si vous voulez. Pierre Guillaume leur dit un jour, je vais vous apporter la bombe à Matignon dans une brouette sans que personne ne m'ait jamais donné l'ordre de la fabriquer. C'est quand même un comble.
C'est extraordinaire parce que c'est la réalité de la vie politique et c'est la réalité des divergences de France en France sous la 4e République. On n'a pas de majorité, je dirais, suffisante. On est obligé de faire des compromis et il y a toujours l'ombre portée de Gaulle. Et par conséquent, des gens qui se réfèrent à De Gaulle sur ce projet qui fait que la bombe va je dirais, aboutir à sa fabrication. Personne n'ose le dire. Pourquoi ? Parce que nous avons en 1946 une chose inouïe qui a été aussi également oubliée. En 1946, la France officiellement à l'ONU, par la voie de Parodi, renonce à l'arme nucléaire. Autrement dit, nous avons une position diplomatique de discours qui est de dire « je ne fais pas la bombe » et une pratique politique « je fais la bombe ».
C'est vrai que c'est mal vu de faire la bombe à ce moment-là et d'ailleurs, on va nous en vouloir considérablement de l'avoir faite. On va y arriver. Mais d'abord, le cas de Félix Gaillard, un homme qui est assez oublié aujourd'hui, mais qui a été président du Conseil très jeune, à 38 ans, mais il n'est resté que 6 mois. Et c'est lui qui a donné enfin le feu vert pour les premiers essais, 2 ans plus tard, mais seulement après la chute de son gouvernement. L'ordre est donc antidaté, donc illégal. C'est une histoire extraordinaire, ça.
Mais nous avons affaire que pratiquement qu'à des dissimulations juridiques. Ça va être la même chose avec De Gaulle quand il va arriver aux affaires. Les décrets ne sont pas publiés, mais ils existent. Donc l'ordre de l'État continue à avancer, mais on ne le dit pas. Et Félix Gaillard, oublié, vous avez raison de mentionner sa, je dirais son rôle. C'était un homme, ceux qui l'ont connu et qui m'en ont parlé, était un homme supérieur en tout.
Même François Mitterrand le disait d'ailleurs. Il disait que c'était le meilleur de tous la 4e.
C'est probablement l'homme le plus brillant qu'on a eu sur la 4e République. Mais il va mourir d'un accident, je dirais prématurément. Et donc il n'aura pas la destinée politique qu'il était en droit d'attendre. Mais il est vrai, encore une fois, qu'il faut faire la bombe sans le dire. Et que parce que nous sommes dans le domaine du secret, nous sommes dans le domaine du secret diplomatique, technique, scientifique, moral. Et il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, peut-être qu'on parlera des Russes, les Russes ont, à travers la présence très forte du Parti communiste pour l'heure, ont mis en quelque sorte sur la bombe une honte, un opprobre. Et cet opprobre fait que le Parti communiste a toujours été très puissant, donc a été pendant très longtemps, avant de s'y rallier tardivement, mais avant de s'y rallier tardivement, il a été un opposant radical à la création de la bombe atomique française. Et donc c'est ce qui explique ce jeu politique complexe. la difficulté du secret, la difficulté de l'argent. Et vous savez, le canon 75 a été le plus célèbre de nos armes, a été voté sur la Troisième République sans qu'on le dise à personne que c'était en quelque sorte des sommes destinées à cette arme.
Ben, c'est exactement le canon 75 qui nous sera bien utile pour la guerre de 14.
Voilà. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour la bombe atomique. On a un commissariat qui échappe à tout contrôle. Il est placé directement sous l'autorité d'abord du président du Conseil, puis après du président de la République. Et par conséquent, les députés, ils voient que du feu.
Vous l'avez dit, tout ça se passe dans le plus grand secret. Mais dès l'instant où Charles de Gaulle revient aux affaires, qu'il devient président de la République. Le premier essai, on l'a dit, il avait été ordonné par Félix Gaillard quelques mois précédemment, hein, et ça va avoir lieu en 1960 dans le Sahara. Et là, de Gaulle trompette absolument partout qu'il va y avoir des essais, le premier essai de la bombe atomique française. Là, il n'y a plus de secret. Il faut l'annoncer à tout le monde.
Alors, c'est incroyable, d'abord parce que ça, c'est assez oublié. On n'est pas du tout honteux avec De Gaulle. On est au contraire dans la glorification, même dans l'ostentation, comme je l'ai écrit lorsque j'ai soutenu ma thèse. Cette ostentation, elle consiste simplement à dire aux gens, aux compagnies aériennes, vous ne surveillez pas. On a une responsabilité. Il s'agit de savoir qu'il
et
va
ça,
y avoir...
Tout le monde le faisait à l'époque. Voilà, quand on faisait des essais, on disait aux compagnies aériennes, stop.
Stop, vous ne passez pas, tel jour, c'est comme ça. Donc, avec De Gaulle, on est dans l'ostentation complète. Et je dois dire que l'arme atomique a cette dualité, je dirais, d'être à la fois quelque chose de honteux, dont on a à repentir, un remords. Je parlerai peut-être des philosophes qui en ont parlé mieux que moi, de Sanders à Albert Camus. Mais en même temps, il y a aussi, en quelque sorte, la victoire prométhéenne. Et donc, ce dilemme dans lequel nous vivons, qui est absolu, qui est à la fois quelque chose qui nous meurtrit, peut-être qui aboutira à l'apocalypse, mais en même temps quelque chose qui nous dit, au fond, l'homme a conquis la puissance, je dirais, la plus incroyable, qui fait que cette bombe est à la fois la chose la plus honteuse et aussi la plus protectrice. J'ai écrit par ailleurs qu'on a voulu donner à la bombe, et Mitterrand était presque sur cette base, je dirais, un prix Nobel de la paix. Non pas par dérision, non pas par antiphrase, non pas par autre chose, mais en disant qu'au fond, pourquoi on n'a pas eu de guerre mondiale depuis 1945? Eh bien, tous les stratèges pensent que cet équilibre de force faisant que depuis qu'on a cette arme ou qu'existe cette arme, il n'y aura pas de vainqueur en cas de guerre, eh bien, elle a donné en quelque sorte fin aux guerres de haute intensité jusqu'à présent.
Cette bombe que nous faisons exploser dans le Sahara en janvier 1960 nous fait entrer dans le club très fermé à l'époque des quatre puissances nucléaires, après les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. Et nous sommes fiers de l'avoir réalisé tout seul. C'était très important pour De Gaulle que nous n'ayons reçu l'aide de personne.
Oui, dès qu'il arrive aux affaires en 1959, on a un discours, donc, parce que De Gaulle a un avantage extraordinaire, c'est quelqu'un qui met les mots et la action en phase. Et il fait un discours à l'école de guerre, il dit voilà, jusqu'à présent, la défense n'a pas été française, il faut qu'elle redevienne. Et donc il faut absolument que l'arme soit française pour une raison simple. Lorsqu'en 44 et 45, lorsque nous avons demandé aux Américains les équipements de dernier cri de l'époque, tous les équipements, ils ne les ont pas donnés. Donc De Gaulle savait, en tant que chef d'état, en tant que, je dirais, militaire de terrain, puisque c'est ça la différence essentielle avec tous les ministres qui vont, je veux dire, les présidents qui vont nous suivre, nous avons un homme qui a combattu à Verdun, nous avons un homme qui a combattu à Montcormet dans la grande campagne de 40. Donc il sait que sans les armes, ben, tous les propos sont invalidés par les faits. Et donc De Gaulle veut absolument que le feu nucléaire appartienne à la France et à l'autorité du président de la République.
Histoire secrète de la bombe atomique française, c'est signé André Benjebar, ça vient de paraître au Cherche Midi. Merci d'être venu nous raconter toute cette histoire, enfin une petite partie de cette histoire, parce que c'est, comme je l'ai dit, plein de rebondissements et plein de suspense. Merci, bonne journée André Benjebar. On fait une pause, on se retrouve juste après avec une chanteuse, c'est Aurélie Saada.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.